commence le cours de métaphysique, de philosophie première. Cette année-ci, c'est la seconde partie de la philosophie première, c'est-à-dire la recherche de la causalité finale de ce qui est en tant qu'être. C'est le titre qu'il faut prendre. Hein. Il faut revenir sur ce que ça signifie. Parce que ça a une signification très précise. La recherche de la cause finale de ce qui est en tant qu'être. Première remarque. C'est Aristote qui nous a donné ça. La recherche philosophique se fait autour des causes qui sont des principes. Donc c'est la découverte des principes de la réalité vue du point de vue de l'être en tant qu'être. La philosophie se termine par la philosophie première. La philosophie commence, n'oubliez jamais cela, commence par la philosophie de l'art. Dans le réalisme d'Aristote, hein, la philosophie de l'art, c'est la première connaissance humaine. Première au point de vue générique. On commence à découvrir ce qu'est le facere, faire, réaliser quelque chose. Regardez ça chez les gosses. Ils jouent avec du sable, ils construisent des petites maisons. Pendant que les grandes personnes prennent leur bain, les enfants s'amusent, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup l'eau, souvent. Il y en a qui l'aiment, il y a des petits poissons, mais normalement, ils aiment mieux s'amuser avec le sable. Et ils construisent tout de suite. C'est la première chose qu'ils font, qui n'est pas bête. Et c'est toujours très intéressant de se pencher auprès d'eux et de leur demander d'être des guides. Et ils font ça très bien. Le facere, faire. On construit. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus sensible que le facere est quand même une grande découverte. C'est pour ça qu'on fait un cours sur la philosophie de l'art. Ce que la scolastique ne faisait pas. Elle les est tombée. Et il faut se demander pourquoi. C'est parce que la scolastique commençait tout de suite par la philosophie spéculative. La philosophie spéculative, c'est la recherche de la vérité pour la vérité. Tandis que la philosophie première, c'est la recherche de comprendre nos différentes activités humaines qui sont à l'égard des réalités physiques. On les modifie, on en use. La construction de la brouette, c'est très intéressant, puisque c'était le premier facere. la construction d'un levier. Les premières constructions. Donc, la philosophie du facere, la philosophie de l'art, est capitale. Il faut tout le temps y revenir. Parce que c'est ça qui nous maintient dans le réalisme. Le premier réalisme, c'est ça. Et on a besoin d'une certaine activité artistique pour apaiser la petite usine que nous portons en nous. Nous portons en nous un certain univers. Et si on coupe ça, on se déséquilibre. Il est toujours bon, d'une manière ou d'une autre, d'avoir un certain facere. On en a besoin. C'est l'équilibre premier de l'homme. Et cet équilibre premier de l'homme, on ne peut pas le supprimer. Il est quelque chose de fondamental en nous. Après le facere, la philosophie artistique, la philosophie du faire, du facere, on a la philosophie éthique, morale. On est responsable de ses actes. À partir de 7 ans, il y a quelque chose qui vous dit, et aujourd'hui à partir de 5 ans, parce que tout va beaucoup plus vite, n'est-ce pas ? À partir de 5 ans, le petit gosse et la petite fille savent très bien ce qu'ils font. L'éveil en nous de l'agir, le point de vue moral. Et la troisième activité pratique, c'est l'activité politique, l'activité dans une communauté. Vous voyez, il y a un triple développement de notre activité humaine. Et ce triple développement de notre activité humaine est premier. C'est ce que nous devons respecter comme quelque chose de fondamental. Et si vous supprimez le point de vue fondamental, l'édifice que vous construisez en vous n'a pas de base. Et risque alors de dégringoler. Et la morale, elle a besoin du facere, curieux. Elle se distingue du faire. Mais d'une certaine manière, elle en a besoin. Parce que faire quelque chose est plus naturel pour nous que l'activité morale, l'activité éthique, qui est plus immanente. Le facere, c'est un dialogue avec la nature en laquelle on se trouve. Quelle mesure on peut la transformer. Toute la philosophie réaliste repose sur ces trois aspects de la philosophie, qui, je crois, restent vrais. Nos activités humaines sont une activité artistique, une activité morale, une activité politique. Parce que si on vivait seul, on n'aurait que les deux. et on vit de fait en communauté humaine, plus ou moins forte, mais en communauté. Puis, second moment de la philosophie, qui a mis longtemps à se développer, c'est la recherche de la vérité pour la vérité. Vous comprenez, dans ce premier mouvement, on ne cherche pas la vérité pour la vérité. On cherche la vérité dans nos activités. Que nos activités du facere soient vraies. Que mon activité morale soit vraie. Que mon activité politique soit vraie. Oui, en passant, combien l'activité politique s'est dégradée. Il y a une vérité en l'activité politique. Il y a une vérité dans l'action morale. Il y a une vérité dans l'activité du facere artistique. Mais cette vérité, dans ces trois activités, sont toujours liées à notre activité. C'est dans l'activité du moral, nos intentions, que nous découvrons la vérité. Elle est dans nos intentions. Elle n'est pas extérieure. Tandis qu'il y a une recherche de la vérité pour la vérité. Et c'est proprement l'activité spéculative. Donc, il y a premièrement, et n'oubliez jamais, une activité pratique. Et cette activité pratique est quelque chose de très important, puisque c'est le début. Une activité pratique dans le facere, dans le faire. Une activité pratique dans l'agir, une activité pratique au point politique. Nous avons donc trois types d'activités pratiques. Alors, eh bien, il y a des sous-titres, hein, vous pouvez mettre des quantités de sous-titres. Les arts, il y a les beaux-arts, il y a l'art artisanal. Le facere implique les deux. Faire la cuisine, hein, c'est du facere. Parce que si on fait la cuisine sans qu'il y ait de résultat, c'est embêtant. En disant, je fais la cuisine, faire la cuisine, ça me finalise. Non, non. Quand vous faites la cuisine, la finalité, c'est ce que vous faites qui doit être mangeable. Vous le faites peut-être avec beaucoup d'amour, mais quelquefois, ce n'est pas mangeable. Non, ce n'est pas faire la cuisine, ça. C'est oublier que la cuisine est faite pour rendre agréable ceux qui s'en nourrissent. Éveiller l'appétit et pas l'enfermer. Vous savez, quand on a quelque chose qui est vraiment trop lourd, on en prend une cuillère. Oh, c'est suffisant. J'ai plus faim. Alors, au contraire, j'en prends une cuillère. Ah, c'est bon. Oui. Ces trois activités humaines sont les trois activités que le philosophe doit étudier en premier lieu. Et à partir de là, le philosophe cherche la vérité pour la vérité. C'est la vérité qui finalise ma recherche philosophique. Et cette recherche philosophique, elle est finalisée par la recherche du monde physique. La philosophie de la nature. Elle est finalisée par la philosophie du vivant. Quel est le premier vivant que j'expérimente ? Est-ce que c'est l'éléphant ? Ou est-ce que c'est la petite poule ? Est-ce que c'est le lézard ? La grenouille, philosophie du vivant. Parmi tous les vivants, il y en a un qui est le vivant, le plus parfait que j'expérimente directement, c'est l'homme. Donc la philosophie du vivant, c'est la philosophie de l'homme vivant. Et j'étudie la vie à partir de moi-même et non pas à partir du crapaud. Essayez d'étudier la vie à partir du crapaud. Vous n'aurez pas grand-chose. Hein. Ce sera vite terminé. Tandis qu'à partir de vous, ah, c'est différent. Je suis un grand vivant. J'ai en moi la vie végétative. Mon corps. J'ai en moi une vie psychologique, les passions. J'ai en moi une vie spirituelle. J'ai donc 3 degrés de vie et que je retrouve chez le crapaud. Mais il n'a pas la vie spirituelle, le crapaud. Il a une vie végétative. Hein. La vie passionnelle du crapaud, c'est difficile à étudier, mais on pourrait l'étudier. Hein. Voir comment le crapaud réagit quand vous lui pincez son dos. Voir comment le crapaud se produit en autre crapaud. La vie végétative à son sommet dans la génération. Et puis, pour l'homme, la vie est une vie spirituelle, la vie de l'intelligence et de l'amour. Il y a une philosophie du vivant. Alors aujourd'hui, la philosophie du vivant se remplace par la psychologie, par la sociologie, par toutes ces choses-là. Alors c'est très intéressant de comparer l'étude philosophique et les développements qui se sont faits, parce que c'était plus facile. Quand la psychologie a commencé, la philosophie du vivant de l'homme, qui est déjà très développée chez Aristote, ne s'est développée au plan psychologique qu'il n'y a pas très longtemps. Ce sont des sciences nouvelles. Alors, il faut voir ce que ces sciences peuvent nous donner et ce que ces sciences ne peuvent pas nous donner. Comment, d'une certaine manière, elles complètent notre philosophie, mais elles la présupposent. On ne peut pas étudier le corps humain sans étudier l'âme humaine. On voudrait quelquefois étudier le corps séparément de l'âme. Nous n'avons pas trois âmes, une âme végétative, une âme sensitive et passionnelle, une âme intellectuelle. Nous n'avons qu'une âme qui commande notre vie passionnelle et notre vie végétative. Et il y a dans la vie spirituelle comme un dépassement du corps. Et ce premier dépassement du corps se fait que notre vie intellectuelle atteint l'universel. L'universel n'a pas de corps. Vous n'avez jamais rencontré le corps universel de l'homme. Non, non. Vous êtes tout de suite dans l'individu. Alors que l'âme spirituelle atteint l'universel. Et l'atteint de diverses manières. L'atteint d'une façon univoque et d'une façon analogique. Donc, deux activités très importantes à distinguer. Et puis, en plus, en dernier lieu, ce que j'appelle philosophie première, on devrait dire philosophie ultime, j'étudie l'être en tant qu'être. C'est des distinctions très importantes qui datent des Grecs. Le devenir, la croissance est une chose normal pour ma vie. Mais mon intelligence est capable de saisir plus que la vie végétative, que ma vie passionnelle. Elle est capable d'atteindre l'universel. Parce que mon intelligence est capable d'un universel, mon intelligence est capable de se séparer du sensible et d'atteindre ce qui est en tant qu'être. L'imagination, c'est pas ce qui est en tant qu'être, c'est ce qui est en tant que capable d'être transformé par l'imagination. Il y a donc une dernière partie de la philosophie, c'est d'étudier ce qui est en tant qu'être. De le saisir dans la réalité existante. Cette réalité existante est premièrement l'homme. N'oubliez jamais ça. La métaphysique, c'est me connaître du point de vue de l'être. Vous voyez, quand il s'agissait de connaître les réalité sensible, alors on pouvait très bien ne regarder que la vue végétative des arbres, des récoltes. Quand il s'agit de connaître l'être comme tel, seule l'intelligence peut le connaître. Donc, la philosophie première, la métaphysique, c'est l'étude de ce qui est sous le point de vue propre de son être, de l'être. On étudie toute chose en tant qu'être. C'est très important cela. Parce que c'est un cheminement tout à fait spécial. Ça a commencé en Grèce. Vous pouvez le voir dans l'Inde. Le voir en Chine. Dans le monde asiatique. Comment ce problème de l'être en tant qu'être s'est posé avec une netteté très particulière en Grèce, Parménide. Et Aristote. Et entre deux, Platon. Étudier la réalité en tant qu'elle est. Ce qu'il y a de tout à fait particulier dans cette étude, c'est qu'elle n'est pas immédiatement réalisable, pratique, puisque l'être en tant qu'être, vous ne le faites pas dans vos opérations. L'être en tant qu'être, il est reçu, il existe par tout le monde, il existe dans tout le monde des vivants, il existe en moi. J'étudie donc quelque chose de très radical. Pourquoi j'étudie ça? Est-ce que c'est pas une perte de temps? S'intéresser à des choses impossibles. L'être en tant qu'être, vous l'avez jamais vu. L'être en tant qu'être. C'est votre intelligence uniquement, vous ne pouvez pas le toucher. Vous touchez l'être sensible, ce n'est pas l'être en tant qu'être. Vous imaginez l'être imaginable. Vous voyez autour de vous l'être physique, matériel, qui a un mouvement. L'être en tant qu'être, où est-ce que vous le saisissez? Dans votre intelligence toute pure. Et quand vous dites « ceci est », la signification du « ceci est » vous montre qu'il y a quelque chose que mon intelligence est capable de saisir et qu'elle saisit comme la chose principale. Tout de suite, dans vos expériences de la réalité, ce jugement, ceci est toujours présent. Tous les matins, quand vous vous réveillez, vous passez du sommeil à la réalité existante. Vous regardez votre montre, et votre montre, elle n'est pas selon votre sommeil. Elle est selon une réalité physique. Elle montre le mouvement du soleil par rapport à la terre. Alors là, vous restez dans le devenir, parce que la journée, c'est un devenir. Le matin, il n'est plus. Vous êtes sorti de votre lit. Quelquefois, on y reste. On ne s'éveille pas beaucoup. Mais normalement, si on prie, on sort du sommeil. Alors, on voit que la philosophie première a ceci de très particulier, c'est qu'elle est la seule philosophie qui peut parler correctement de l'être premier, Dieu, qui est être premier, donc au-delà du devenir, au-delà de la matière, il est. Si je suis croyant, je vois que dans l'Écriture, il est dit « Je suis celui qui est ». Il faut que j'essaie de comprendre ce qui est. C'est très curieux que mon intelligence a besoin de s'éveiller à partir d'une expérience. Ceci est. À partir de l'expérience que j'ai des réalités qui sont autour de moi, de la réalité qui est en moi. Qu'est-ce que c'est que l'être en tant qu'être? C'est-à-dire l'être vu pour lui-même. Et je vois que c'est la seule réalité qui permettra de poser l'être premier. Puisqu'il n'y a rien au-delà de l'être. Il y a Dieu qui est l'être premier. Alors la métaphysique prend une signification très particulière. Et cette signification très particulière, on dira, ce n'est plus seulement une connaissance normal, c'est une connaissance qui termine toutes les connaissances puisqu'elle atteint la fin. Elle atteint Dieu. La connaissance de l'être comme tel me permet de découvrir un être premier, et cet être premier, c'est celui qu'on appelle Dieu. Selon toutes les traditions humaines, les traditions les plus fondamentales. Donc, cette ultime partie de la philosophie, philosophie première a un sens tout à fait spécial, c'est qu'il touche vraiment ce qu'il y a d'ultime dans la réalité physique, dans la réalité du vivant, dans la réalité de moi-même. Étudie l'être en tant qu'être. Je veux savoir ce que c'est que l'être en tant qu'être. Il faut toujours se rappeler ce parcours et que la métaphysique est dernière. Elle présuppose toutes les autres parties. les autres parties sont premières, sont génétiquement premières, mais ne sont pas premières au sens absolu. Seule la métaphysique étudie l'être comme tel, le to-on et on. En grec, le to-on, ce qui est en tant qu'être. Il y a dans cette recherche métaphysique quelque chose de très spécial, c'est que je touche ce qu'il y a d'ultime, de dernier. Il n'y a plus rien après. Et touchant ce qu'il y a de plus profond dans toutes les réalités, son être, même l'être du crapaud, c'est cet être en tant que tel, sans regarder les particularités qu'il peut avoir, mais saisir ce qu'il est en tant qu'être. C'est seulement cette voie qui me permet d'atteindre l'existence d'un être premier. Toutes les autres voies, toutes les autres connaissances restent attachées à l'homme. Or, si il existe un être premier, ce n'est pas l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme, dans son être, il est limité et il est terriblement limité dans son être. Il est terriblement limité dans sa vie et en lui, l'être se donne à travers la vie, à travers le mouvement. Donc, l'être implique la vie et le mouvement, mais l'être est une connaissance au-delà du mouvement et au-delà de la vie. C'est l'être comme tel qui va être mon souci auquel je reviendrai tout le temps. Quelle est la structure maintenant de la connaissance philosophique ? La philosophie a commencé avant la science, comme on l'entend maintenant. Quand je dis ça, ce n'est pas tout à fait vrai. La philosophie a présupposé les sciences mathématiques. Les sciences mathématiques ont existé avant la philosophie. Les sciences mathématiques ont un droit d'aînesse. C'est la connaissance dans laquelle la connaissance est toujours liée à un certain facere. C'est étonnant que les mathématiques, à ce point de vue-là, sont ce que l'intelligence humaine atteint en premier lieu. Mais les mathématiques n'atteignent pas l'être en tant qu'être. C'est la première chose qu'il faut voir. Il faut essayer de comprendre ce que les mathématiques atteignent, c'est-à-dire l'être mathématique. Parce que c'est le grand-père, les mathématiques. Donc les mathématiques ont une valeur très spéciale d'être les plus anciennes connaissances. Si les mathématiques ont cette valeur d'être les plus anciennes connaissances, c'est peut-être parce qu'elles sont les connaissances les plus humaines et qu'elles ont comme caractère d'être les connaissances les plus certaines pour l'homme. La connaissance mathématique unit l'intelligence à l'imagination, parce que l'être mathématique est toujours lié à la quantité et à l'imagination. Il naît à partir de là. C'est très curieux de voir combien les mathématiques sont fondamentales à la connaissance humaine. C'est presque, je dirais, une propriété de l'être humain, de la connaissance humaine. C'est-à-dire une connaissance liée toujours à l'imaginaire. Or, ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à l'homme, c'est d'être un être où il y a quelque chose de spirituel. L'intelligence, l'amour, mais en même temps qu'il est radicalement enfoncé dans le corps. Son âme informe le corps. Son âme vit dans le corps, dans la sensibilité, dans l'imaginaire. Je ne peux pas et je n'ai pas de vie de séparer de mon corps. Vous voyez, la grande opposition d'Aristote a été en face de Platon. Et c'est important, intéressant, de voir que la philosophie, notre philosophie d'Aristote, elle est née en réaction de Platon. Elle est née en réaction de la division de Parménide et d'Héraclite. Elle est née à partir de cela. Et c'est toujours très important de voir que la philosophie, c'est une connaissance de l'homme. Je dis une connaissance de l'homme. Et que les mathématiques sont une connaissance humaine. Et c'est très proche, hein, distinguer la connaissance de l'homme de la connaissance humaine, en disant, oh, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Connaissance humaine, ça veut dire la connaissance qui provient de l'homme et qui naît à partir de l'homme. La connaissance de l'homme, ça veut dire une connaissance qui appartient à l'homme et qui, quant à son objet, dépasse l'homme, puisqu'elle regarde l'être. L'être dépasse l'homme, la vie dépasse l'homme, le devenir dépasse l'homme. Il est, il existe avant l'homme, il existe pour l'homme. Tandis que la connaissance humaine, c'est celle qui ne peut pas exister sans l'homme. La philosophie de l'homme, c'est l'homme qui se l'approprie lentement. La philosophie humaine, elle est comme naturelle à l'homme. Alors les connaissances mathématiques ont cette dignité, cette gloire particulière d'être la première connaissance de l'homme, celle qui est avant toutes les autres. Et par le fait même qu'elle est avant toutes les autres, elle a toujours cette tendance de réclamer son droit d'aînesse et donc de tout ramener à elle. Et c'est proprement ce que nous voyons à notre époque. La connaissance mathématique s'est développée intensément et elle a la tendance, la tentation, si vous voulez, de se déclarer première. Alors c'est pour ça que quand je dis philosophie première, j'ai déjà réglé le compte aux mathématiques. Avant les mathématiques, plus profondément que les mathématiques, il y a la philosophie première de l'être. Parce que les mathématiques n'atteignent pas l'être comme tel, mais l'être digéré par l'homme. L'être qui se donne à l'homme par la quantité. Et ce n'est pas les mathématiques qui me permettront de découvrir l'être premier. Les mathématiques découvriront l'être humain, imaginatif. L'être humain capable de dominer le monde physique, capable de se servir du monde physique. Les mathématiques apportent un très grand secours à l'homme. La métaphysique n'apporte pas ce secours à l'homme. Mais la métaphysique a ce grand avantage de découvrir quelle est la finalité de l'homme. Alors ici, on le fera la fois prochaine. Il faut découvrir ce qu'est la philosophie, à la différence des mathématiques. Ce qu'est la philosophie, la recherche des principes.